Radio Kapi.
Oh, Kapi.
À la présentation, Blaise Chindani Kambala. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition du journal du matin dont voici d'abord les titres. Plus de 4000 civils bénéficient de la protection des casques bleus de la MONUSCO à Djina dans les territoires de Djougou. Cette action fait suite aux affrontements opposant les FARDC aux éléments du groupe armé Convention pour la Libération Populaire. Une patrouille de la MONUSCO avait été immédiatement déployée pour sécuriser les populations déplacées. La CNDH a, dans le cadre de son mandat, déployé une mission d'observation pour surveiller le procès pénal de l'ancien président de la République, Joseph Kabila. À cette occasion, son président Paul Sampou réitère sa recommandation faite au gouvernement de ratifier le deuxième protocole facultatif au pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort en RDC. Dans le cadre de son mandat, la Commission nationale des droits de l'homme a déployé une mission d'observation pour surveiller le procès pénal de l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Celui-ci, vous le savez, venait d'être condamné à mort par la Haute Cour militaire pour plusieurs infractions, dont la trahison, la participation à un mouvement insurrectionnel. Pour en parler, Radio Kapi reçoit le président de la CNDH, Paul Sampou. Mesdames et messieurs, voilà tout pour le titre. Mesdames, messieurs, une fois encore, bonjour. Ce journal part de l'Ituri, où plus de 4000 civils bénéficient de la protection des casques bleus de la MONUSCO à Djina, dans les territoires de Djougou. C'était le 27 et le 28 septembre dernier, à 40 km au nord de Bounia. Cette action fait suite aux affrontements dans les villages voisins de Niamapala, opposant d'abord les FARDC aux éléments du groupe armé Convention pour la Libération Populaire CRP, puis CODECO SRP. Une patrouille de la MONUSCO avait été immédiatement déployée pour sécuriser les populations déplacées. Les explications du major Ahmed Bouya, officier de l'information publique de la force de la MONUSCO, au micro de Martial Papimoukeba.
Alors que les casques bleus sécurisaient la zone, de nouveaux tirs ont éclaté à Tchatchouba, où des éléments de CODECO ont intercepté les CRP, déclenchant une confrontation violente. La patrouille a été contrainte de se redéployer pour assurer la protection des civils. En réponse à l'escalade, des patrouilles supplémentaires et robustes ont été envoyées pour sécuriser les axes menacés. Ces affrontements ont provoqué un déplacement massif de civils. Près de 4000 personnes, dont environ 1950 femmes et 700 enfants, se sont regroupés autour de la base de la MONUSCO à Djina. Le contingent népalais est intervenu de manière décisive. Une patrouille équipée de véhicules blindés a sécurisé les abords de la base, tandis que d'autres patrouilles mobiles ont contrôlé les axes sensibles. Les casques bleus ont également évacué 3 blessés vers l'hôpital de Djina, une fille de 13 ans et 2 hommes, avant leur transfert par hélicoptère médicalisé vers Bounia pour une prise en charge spécialisée. Malgré la poursuite des échanges d'outils, jusqu'au lendemain matin, la présence déterminée des casques bleus a permis de sauver des vies et de protéger efficacement les populations civiles.
Sachez également que la mission onusienne condamne fermement la recrudescence de la violence survenue le 2 octobre dans les territoires de Djougouani-Touri. Dans un communiqué publié hier vendredi à Kinshasa, la MONUSCO rappelle que cet incident a entraîné la mort de plus de 13 personnes, dont des personnes déplacées et au moins 7 membres de groupes armés. Ces pertes en vies humaines font suite aux affrontements entre les éléments de la CODECO et du groupe armé Zahir Amazé, ajoute ces documents. Des tirs attribués à des hommes armés non identifiés ont également été signalés à Djina, à 30 km au nord-est de Bounia, ont aussi provoqué des déplacements d'environ 2500 civils vers la base de la MONUSCO où ils ont trouvé refuge auprès des casquets bleus qui ont immédiatement mené des patrouilles afin de sécuriser la zone et maintenir une protection. La mission onusienne au Congo exprime donc sa profonde indignation face à ces actes de violence inqualifiables pouvant être constitutifs de graves violations du droit international humanitaire et des droits de l'homme. La mission présente ses condoléances aux familles des civils tués dans les affrontements et réaffirme sa pleine solidarité envers les populations affectées. Elle appelle les autorités congolaises à diligenter une enquête impartiale et à traduire sans délai les auteurs de ces crimes devant la justice. Restons dans la zone pour vous signaler que 120 militaires des FARDC bénéficient depuis le 29 septembre à Bunia d'une formation intensive dans le cadre de soutien de la MONUSCO au renforcement de leurs capacités opérationnelles. Le programme couvre des domaines essentiels tels que les transmissions, l'utilisation des drones, la navigation GPS et les systèmes informatiques, des compétences indispensables pour l'efficacité militaire moderne et la maîtrise du terrain. Cette formation, qui se poursuivra jusqu'au 10 octobre, vise à renforcer la maîtrise technique, la coordination et la préparation opérationnelle des militaires, tant pour les missions nationales que pour les missions multinationales. Lentement mais sûrement, le processus de paix entre la RDC et le Rwanda avance malgré les défis sécuritaires et politiques persistants. Dans une déclaration conjointe publiée le 2 octobre 2025 par les départements d'État américains, la RDC et le Rwanda, avec le soutien des États-Unis, du Qatar, du Togo et de la Commission de l'Union africaine, ont présenté les décisions de la troisième réunion du comité mixte de surveillance de l'accord de paix de juin 2025 tenu le 1er octobre à Washington aux États-Unis. Cette rencontre marque une nouvelle étape pour la mise en œuvre de l'accord de paix signé entre les deux pays en juin dernier. Les détails avec Martial Papimukeba.
Selon les communiqués, les participants ont reconnu les obstacles persistants à la mise en œuvre de l'accord, notamment la neutralisation des FDLR et de leurs affiliés, ainsi que la levée des mesures défensives par les Rwanda. La RDC et les Rwanda ont finalisé l'ordre d'opération proposé par les mécanismes conjoints de coordination de la sécurité, entré en vigueur le 1er octobre. Le comité a aussi souligné l'importance de l'accès du CICR à tous les détenus et les deux pays se sont engagés à les faciliter. Les membres ont insisté sur la nécessité de soutenir l'accord en parole et en acte, en évitant tout langage ou comportement hostile. Face aux tensions récentes à Uvira, au Sud Kivu et Walikale, au Nord Kivu, un appel à la retenue a été lancé à tous les acteurs. Le Qatar a présenté l'état des pourparlers de Doha entre la RDC et l'AFC M23, salua l'accord sur l'échange de prisonniers et la reprise des négociations prévues la semaine d'ici octobre. Le comité a réaffirmé son soutien à ces processus jugés essentiels pour l'application plus large de l'accord. Béni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Et puis, célébration d'un triste anniversaire dans les territoires de Beni au Nord Kivu. 11 ans déjà, en effet, depuis le début des tueries attribuées aux rebelles de ZADF. La population a marqué hier, jeudi 2 octobre, ce triste anniversaire à Oicha, chef-lieu du territoire, des scientifiques, des acteurs de la société civile ainsi que les responsables des services de sécurité ont organisé un échange citoyen pour réfléchir aux causes de la persistance de l'insécurité dans la région. Ils ont lancé un appel pressant au gouvernement afin de revoir ses stratégies de protection des civils. Marc Marofimbo pour plus de précisions.
Lors de cette conférence, les facilitateurs ont rappelé que les massacres attribués aux ZADF avaient commencé le 2 octobre 2014 avec la mort de deux civils dans la localité de Mukoko, à une quarantaine de kilomètres au nord de la ville de Beni. Depuis, au moins 10 000 civils ont été tués par ces rebelles, des villages parfois entévidés de leurs habitants, laissant derrière eux une population fragilisée et traumatisée. Les participants recommandent au gouvernement de revoir sa stratégie de sécurisation des civils, mais aussi d'exonérer cette communauté meurtrie de toute charge fiscale. Témoignage de Simon Mavunga, activiste des droits humains et participant à cet échange.
Depuis tout ce temps-là, l'activisme des ZADF continue. Il continue à endeuiller nos populations et il n'y a aucune stratégie militaire pour mettre cet ennemi hors l'état de nuire. Et que donc, nous sommes en train d'interpeller les autorités qui se chargent de la sécurité des populations, qu'ils puissent encore renforcer surtout leur stratégie dans le cadre de sécuriser les populations. Le gouvernement congolais doit arrêter à continuer à percevoir des obligations fiscales sur ces populations. populations longtemps meurtries par le massacre et il n'y a aucune mesure stratégique pour mettre hors de terre et nuire l'ennemi.
Un message fort qui résonne comme un nouvel appel au gouvernement pour qu'enfin les populations de Beni retrouvent la paix. Beni, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
Pendant ces temps, ici à Kinshasa, l'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté ce jeudi les projets de loi portant prorogation de l'état des sièges dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Au cours de la plénière de la Chambre basse du Parlement, la députée Daïda Moleka, élue de Lukunga à Kinshasa, a même plaidé pour l'extension de cette mesure exceptionnelle au Sud Kivu au regard, selon elle, de l'activisme accru de groupes armés et de la rébellion du M23. Une proposition que rejettent certains élus, notamment du Nord Kivu, mettant en cause l'efficacité de l'état de siège dans les deux provinces concernées, tout en promettant de transmettre au gouvernement cette suggestion d'étendre l'état des sièges au Sud Kivu, le président intérimaire de l'Assemblée nationale, Isaac Jean-Claude Chilumbai, exhorte les députés à développer plus de stratégies pour appuyer les forces armées de la RDC pendant cette période de crise sécuritaire. Dans le cadre de son mandat, la Commission nationale des droits de l'homme a déployé une mission d'observation pour surveiller le procès pénal de l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Celui-ci, vous le savez, vient d'être condamné à mort par la Haute Cour militaire pour plusieurs infractions dont la trahison, la participation à un mouvement insurrectionnel. À ce sujet, le président de la CNDH, Paul Sampou, réitère sa recommandation faite au gouvernement des ratifier le deuxième protocole facultatif au pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort en RDC. Il est au micro de Jeff Ngoïmo-Londa.
Nous appelons les pouvoirs publics à aller progressivement vers l'abolition de la peine de mort, bien sûr, en harmonie avec les standards internationaux de protection des droits humains. Cette réponse est conforme aux recommandations que la CNDH avait faites au gouvernement après la levée du moratoire sur la peine capitale. Et là donc, notre organisation a en outre recommandé au gouvernement de ratifier le deuxième protocole facultatif au pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort. Aussi, une autre recommandation apportée sur la révision des codes pénaux ordinaires et militaires congolais.
Le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, de la sécurité, de la décentralisation et des affaires coutumières, Shabani Luko Biango, demande aux députés provinciaux du Congo central, membres du bureau et pétitionnaires, de rejoindre la capitale pour une consultation urgente. Cet appel intervient sous un climat politique tendu, partant du mardi 30 septembre où 5 pétitions ont été déposées contre les membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Congo central lors de la rentrée parlementaire de la session de septembre. Par la suite, l'honorable Mante Zolo a saisi la Cour constitutionnelle le mercredi 1er septembre, ajoutant un nouveau rebondissement judiciaire à cette crise institutionnelle. Entre pétitions, recours en justice et convocation à Kinshasa, le dossier du Congo central prend une ampleur nationale. Un autre souvenir est sur un tout autre chapitre. Il s'agit du naufrage du bateau MV Merdi au Nord Kivu. Les habitants de la ville de Goma se rappellent encore ce drame survenu le 3 octobre 2024 sur le lac Kivu. Un accident qui avait coûté la vie à plusieurs personnes et fait plusieurs disparus ainsi que des pertes en marchandises. L'épave du bateau est toujours au fond des eaux à quelques encablures du port de Kituku au quartier Kieshero. Une année après, il semble qu'aucune leçon n'a été tirée de cet accident puisque les mêmes risques persistent. Deuxième numéro de la série de reportages sur la société textile de Kisangani, Sotexki en sigle. Après 3 ans d'arrêt de fonctionnement de cette usine, les conséquences sont inéluctables. Quelles sont les conséquences? Jacques Moukonkole.
Bien entendu, l'arrêt de la production, celle qui aurait dû générer des devises nécessaires à l'économie aussi bien locale que nationale. Alors qu'à sa création, la production initiale était estimée à 1 500 000 mètres de tissus linéaire, cette production a baissé progressivement au cours des années jusqu'à 60 000 mètres avant la fermeture en juillet 2022. Parmi les causes, diverses difficultés dues notamment à la détérioration du tissu économique, à la suite des pillages, des rébellions et le manque de financement. Cette improductivité entraîne un manque à gagner pour la Sauteski et les gouvernements, aussi bien local que central. Ce manque à gagner profite aux usines textiles asiatiques, dont les produits inondent le marché local. Autre difficulté, l'impossibilité de répondre à certaines charges d'exploitation ou encore des renouvellements de matériel. Par ailleurs, la majorité des travailleurs, 300 actuellement, est renvoyée en congé technique. Autrefois, pendant son apogée, la Sauteski comptait 2500 employés, et l'usine tournée avec 3 équipes, 24 heures sur 24. Ces 3 ans d'arrêt fatidique ont occasionné une déstabilisation sociale d'employés, 38 mois de salaire non payé. Entre-temps, des centaines d'autres ne peuvent aller en retraite, alors que le personnel doit être rajeuni. La relance de la Gécamine de la province orientale de Mambré s'avère donc impérieuse. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le Hamas s'est dit prêt vendredi 3 octobre, a libéré tous les otages israéliens retenus à Gaza dans le cadre du plan de paix proposé par Donald Trump. Le président américain a rapidement dit que le mouvement islamiste palestinien était prêt pour une paix durable. Le Hamas affirme, lui, que des négociations sont nécessaires. Sur la scène internationale, le pays médiateur dans la guerre à Gaza ont salué cette réponse.
L'invité.
Dans le cadre de son mandat, la Commission nationale des droits de l'homme a déployé une mission d'observation pour suivre les procès pénals de l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Celui-ci, vous le savez, venait d'être condamné à mort par la haute cour militaire pour plusieurs infractions, dont la trahison, la participation à un mouvement insurrectionnel. Pour en parler, nous recevons Paul Sampou, le coordonnateur de la CNDH, et son entretien avec Jeff Ngoyimolonda.
Paul Sampou, bonjour.
Bonjour.
Une année et demie après que le gouvernement congolais a levé le moratoire sur la peine de mort, la justice congolaise, en particulier la justice militaire, a déjà prononcé plusieurs condamnations à mort. Et vous, en tant que défenseur des droits de l'homme, qu'en pensez-vous?
La Commission nationale des droits de l'homme réaffirme sa position de principe, celui du droit à la vie. Le droit à la vie est un droit fondamental garanti par notre Constitution et par de nombreux instruments internationaux auxquels la RDC est partie prenante. La peine de mort, même lorsqu'elle est prévue par la loi, pose de sérieuses questions éthiques et juridiques. C'est pourquoi la CNDH recommande que, même en cas de condamnation prononcée, la peine capitale ne soit pas exécutée, mais plutôt commuée en peine alternative comme la réclusion à perpétuité. Nous appelons le pouvoir public à aller progressivement vers l'abolition de la peine de mort, bien sûr, en harmonie avec les standards internationaux de protection des droits humains. Cette réponse est conforme aux recommandations que la CNDH avait fait au gouvernement après la levée du moratoire sur la peine capitale. Et là donc, notre organisation a en outre recommandé au gouvernement de ratifier le 2e protocole facultatif au pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort. Aussi, une autre recommandation a porté sur la révision des codes pénaux ordinaires et militaires congolais.
Justement, parmi les condamnés à mort figure désormais l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Est-ce que vous ne craignez pas que cette peine soit un moyen de règlement de compte contre les opposants, défenseurs des droits humains et autres?
La CNDH, à travers sa mission d'observation judiciaire déployée au cours de ces procès, suit avec attention ces dossiers et rappelle que toute personne a droit à un procès équitable, indépendant et impartial. La justice ne doit en aucun cas devenir un outil de règlement de comptes politiques ou personnels. Elle doit demeurer un pilier de l'état de droit. Notre rôle est de veiller à ce que le droit des prévenus, y compris des personnalités politiques de haut rang, soit respecté dans le strict cadre de la loi.
Selon l'observation faite par la CNDH, est-ce que la procédure contre Joseph Kabila a-t-elle été impartiale et équitable?
Sur la forme, il est important de rappeler que le procès s'est tenu par contumace. C'est une procédure prévue par notre droit congolais. Elle est régulière, cette procédure, d'autant plus que le prévenu avait été valablement notifié de la date d'audience. Il a fait le choix de ne pas se présenter. Cela relève de son droit. C'est lui de comparaître ou de s'abstenir de le faire. Quant au fond, la Commission nationale des droits de l'homme ne saurait vraiment se prononcer à ce stade. Nous devons d'abord prendre connaissance de l'arrêt rendu par la haute cour militaire avant d'émettre une position sur l'impartialité et l'équité de la procédure. La CNDH, en tant qu'institution nationale indépendante, reste attachée au respect des garanties d'un procès juste et équitable, conformément bien sûr à la Constitution et aux instruments internationaux de protection des droits humains. Une analyse plus complète interviendra donc une fois que nous aurons étudié le contenu intégral de la décision de justice et exploité le rapport complet de notre mission d'observation judiciaire. Mais je note que la Constitution de notre pays interdit formellement, aussi bien dans sa motivation, dans son préambule, que dans certaines dispositions telles que l'article 64. Il s'agit bien sûr de la tentative de prise de pouvoir par la force. C'est prohibé par la constitution de notre pays. La prise ou la conservation du pouvoir par la force, en recourant aux armes, ça c'est interdit. Mais l'État est chargé d'assurer l'ordre, de défendre la souveraineté, de défendre des vies humaines, de protéger la population.
Je vous remercie.
Merci.
C'était notre invité Paul Sampou qui s'entretenait avec Jeff Ngoïmolonda et c'est ce qui met fin à cette grande édition du Journal du Matin qui a connu la coordination éditoriale de Jean Gandou Kabongo, supervisé par Lévin Mwingavubu, Jean-Claude Nsiala, Mwanamakengonsoalou, la mise en onde. Les informations continuent sur la radio de la paix, sur nos plateformes numériques ainsi que sur notre site internet www.radiocapi.net.